La semaine dernière, nous avons vu que l'être humain part en quête d'identité dans ces domaines que j'affiche à nouveau ici, ces domaines que sont l'amour, l'importance, la compétence. On est amené à se poser des questions, s'interroger, est-ce que je suis aimé? Est-ce que je suis important? Est-ce que je suis compétent? On recherche tout cela dans ce qui nous entoure, on recherche à être bien vu par les autres, on recherche à trouver notre valeur autour de nous ou en nous. Et aussi cette quatrième question qui aussi parfois nous identifie, nous façonne, est-ce que je suis condamné par mon passé, par mon vécu ? Toute cette recherche, toute cette quête d'identité, elle est due, et je l'ai dit en substance la semaine dernière, elle est due au fait que nous avons hérité d'une nature pécheresse depuis le péché de nos premiers parents, Adam et Ève. En faisant le choix de désobéir à Dieu et de ne pas dépendre de lui, Adam et Ève ont par conséquent recherché à être maîtres d'eux-mêmes. Et cela les a conduits, eux et toute leur descendance, à devenir eux-mêmes la référence pour se définir, pour trouver leur identité, mais, on en conviendra bien sûr, une référence inévitablement marquée par le péché. Cependant, comme nous l'avons vu, entrevu la semaine dernière, lorsque nous plaçons notre confiance, notre foi en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle identité. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés du royaume de ce monde au royaume de Dieu. Nous sommes passés d'une identité en Adam à une identité en Christ. D'une identité en Adam à une nouvelle identité en Christ. En venant dans ce monde, nous naissons et avons cette nature pécheresse, cette nature marquée par le péché. Nous sommes en Adam. Nous sommes de sa descendance. Et ce, quelle que soit notre origine culturelle ou le statut social de la famille dans laquelle nous allons grandir, vivre, etc., cette identité nous est héritée de la part de nos premiers parents. Nous sommes en Adam. Déjà, dans le sein maternel, cette identité de pécheur nous collait à la peau. Regardez ce que dit David dans ce psaume 51. « Voici, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. » Dans ce psaume 51, David reconnaît la faute qu'il a commise avec Bathsheba. Mais en disant cela, il ne cherche pas à excuser sa faute. Ce n'est pas ma faute quand même, voyons. J'ai été enfanté dans le péché. Non, ce n'est pas ça qu'il vient faire. Il vient plutôt poser un état de fait. Je suis pécheur depuis le sein maternel. Et par conséquent, le jugement de Dieu que Nathan le prophète vient de me dire, il est juste ce jugement, parfaitement juste. David et tant d'autres ont attendu la réalisation de cette promesse que Dieu avait faite depuis le lendemain finalement de la chute en Genèse chapitre 3, le verset 15, où Dieu avait promis quelque chose, celui qui allait venir pour détruire les œuvres du diable. David a été dans l'attente de cela et dans son amour et dans sa grâce. Dieu, tout au long de la Bible, on voit qu'il n'a pas abandonner sa création et les êtres humains. Il a conçu un plan de salut pour sauver l'humanité marquée par le péché, et cela a été rendu possible par la venue du Messie, qui n'est autre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mort sur la croix et ressuscité le troisième jour. L'apôtre Paul exprime tout ce qu'on vient de voir en des termes que je ne vais pas expliciter tout en détail ce matin, simplement je vais lire ce texte dans Romains chapitre 5, les versets 15 jusqu'au verset 21. J'ai rajouté ce qui apparaît sur le diapo ici en bleu pour bien voir de quoi on parle. Il y a une différence entre la faute et le don de la grâce. En effet, si la faute d'un seul, la faute d'Adam, a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu, ce don gratuit qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul, d'Adam, et le don de la grâce en Jésus. En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme, encore une fois, Adam, a entraîné la condamnation. Mais le don de grâce que nous avons en Jésus, intervenant à la suite de nombreuses fautes, a conduit à l'acquittement. Car si par la faute commise par un seul homme, encore une fois Adam, la mort a régné à cause de ce seul homme, Adam, eh bien à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce qu'est le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme une seule faute, celle d'Adam, a entraîné la condamnation de tous les hommes, eh bien un seul acte satisfaisant à la justice, cet acte c'est celui de Jésus, a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur assure la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, Adam, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu, eh bien de même par l'obéissance d'un seul, qui est Jésus, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère, mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, pour que, comme le péché a régné par la mort, de même, la grâce règne par la justice que Dieu accorde et qui aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Je trouve la note de bas de page dans la Bible d'étude du Semeur résume bien la pensée de l'apôtre Paul ici et je vous la lis et elle est affichée. Par un contraste saisissant, qui est souligné par les expressions « à bien plus forte raison » qu'on a au verset 15, au verset 17, ce contraste saisissant entre les deux chefs d'alliance de l'ancienne et de la nouvelle humanité, donc Adam et Christ, et aussi ce contraste saisissant avec les conséquences de leurs actes à chacun, eh bien Paul souligne la portée et l'ampleur du salut qu'apporte Jésus-Christ. C'est la grâce qui surabonde, verset 15. C'est l'acquittement des fautes qui est acquis, verset 16. C'est la vie qui règne, verset 17. Et ce, pour tous les hommes qui sont unis à Jésus-Christ, comme on le voit au verset 19. De même que par la faute d'Adam, la condamnation et la mort se sont étendues à tous par l'œuvre de Jésus-Christ, la vie et la grâce surabondent pour tous, comme on le lit dans les versets 20 et 21. Fin de citation. Nous sommes pécheurs en venant dans ce monde. C'est un héritage que nous avons de par notre union en Adam. Mais le jour où nous plaçons notre foi, notre confiance en Jésus-Christ, nous quittons notre identité en Adam pour revêtir, endosser une nouvelle identité, celle d'être en Christ. Nous sommes alors unis à Jésus-Christ par la foi. La Bible parle ici de la nouvelle naissance qui est spirituelle. Elle parle aussi de la conversion à Jésus-Christ. C'est notre nouvelle identité en Christ. Et il nous faut prendre conscience de cette nouvelle identité en Jésus-Christ. Et pour cela, nous allons parcourir ce que l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 6, versets 3 à 10. Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Christ Jésus, il s'adresse à des chrétiens, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Dans le contexte dans lequel on trouve ce passage, dans les versets 1 et 2, l'apôtre Paul pose la question, mais avec cette grâce que l'on a en Dieu, en Jésus-Christ, est-ce qu'on peut continuer à pécher? Mais bien sûr que non. Et il explique le bien fondé. Mais en fait, je dégage ce texte ici, juste les versets 3 à 10, pour prendre conscience, par rapport au péché, mais par rapport à notre identité en Christ, qu'il y a un changement qui s'est opéré et qui a été représenté, symbolisé, je vais y revenir avec le baptême, ce passage d'une identité en Adam à une identité en Jésus-Christ. Comme je le disais déjà dimanche passé, apprenons à nous voir comme Dieu nous voit. Définissons notre identité en fonction de ce que Dieu a fait pour nous, de ce qu'il dit de nous. C'est le regard de Dieu qui compte et non le regard des autres, le regard du monde ou même notre regard sur nous-mêmes. Ces versets-là de l'apôtre Paul nous rappellent que Christ est mort pour nous. Et ça, en général, on le sait, on le chante, on le prie toute la semaine et avec un accent fort le dimanche, Christ mort pour nous. Mais il ne nous faut pas ignorer ou oublier que Christ est mort pour nous, mais nous sommes morts en Christ. Nous sommes morts avec Christ. Je vous relis les versets 6 et 7 ici. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes morts à l'esclavage du péché. Mais nous ne sommes pas seulement morts avec Christ, nous sommes aussi, comme dit le texte, ressuscités avec lui. Et c'est ce que représente le baptême dont Paul parle dans ce texte. Parce qu'au moment du baptême, lorsque l'on est plongé dans l'eau, ce mouvement représente, symbolise notre mort à notre ancienne vie. Et puis bien sûr, la personne qui se fait baptiser ressort de l'eau. Et cette sortie de l'eau représente, symbolise la naissance à une vie nouvelle en Christ. Pour l'apôtre Paul, cette mort et cette résurrection avec Christ sont une manière de décrire le changement que l'Esprit-Saint produit en nous quand nous plaçons notre foi en Jésus-Christ et dès lors que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a reproduit la mort et la résurrection de Jésus dans notre vie le jour de notre conversion. Et cette double réalité de la mort et de la résurrection sont représentées, sont symbolisées le jour de notre baptême. J'insiste sur le fait que ce sont des symboles parce que ce passage s'opère le jour de notre conversion. Et au baptême, le baptême ne vient que représenter, symboliser, signifier cela. Et c'est ce qui permet à Paul de dire que non seulement nous sommes morts à notre vieille nature, notre ancienne nature, mais nous sommes aussi ressuscités avec Christ et animés d'un désir plus grand, nouveau, de servir Dieu. Prenons donc conscience de cette nouvelle identité en Christ à la lumière de ce texte que nous venons de lire. Mais ce texte ne s'arrête pas au verset 10. Et dans les versets 11 à 14, cette vérité que Paul vient de présenter, il nous faut maintenant nous l'approprier, il nous faut l'expérimenter. Voici ce que Paul dit dans la suite du texte. Je lis les versets 11 à 14. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas sur votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-mêmes à Dieu comme des vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres comme arme pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident de nous approprier, d'expérimenter cette nouvelle identité en Christ, parce que depuis que nous sommes chrétiens, par la force des choses, on pose ce constat que nous péchons encore. Et comme nous avons tendance souvent à raisonner en fonction de nos performances, et je nous renvoie à ce qu'on a vu la semaine dernière, eh bien finalement nous nous définissons en fonction de nos manquements, de nos fautes, de nos péchés, de nos erreurs, de nos échecs, et non pas en fonction de qui nous sommes en Jésus-Christ. Et par conséquent, nous avons des difficultés à comprendre ce passage-là. Nous sommes morts avec Christ, mais aussi ressuscités avec lui. Parce que là où notre nature humaine nous invite à considérer ce que nous faisons, avec son lot de faiblesses, erreurs, péchés, fautes, etc., ce que nous faisons va déterminer ce que nous sommes, et bien l'apôtre Paul, en fait, nous dit l'inverse. C'est ce que nous sommes en Christ qui va de plus en plus déterminer ce que nous faisons. C'est ce que nous sommes en Jésus-Christ qui va déterminer de plus en plus ce que nous faisons. Et parce que nous sommes morts et ressuscités avec Christ, nous devenons de plus en plus capables d'avoir la victoire dans notre lutte contre le péché, pour reprendre le contexte de l'apôtre Paul ici, dans ce texte de Romains 6, du fait justement de cette nouvelle identité que nous avons en Jésus-Christ. Il nous faut apprendre à regarder nous-mêmes comme Dieu nous voit. Nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ, comme le dit le verset 11 ici. Ce n'est pas de l'autosuggestion. Mais cette technique qui consiste à s'influencer soi-même de manière consciente pour agir sur son inconscient, sur ses pensées, sur ses émotions et sur son comportement. Ce n'est pas de l'autosuggestion. Il s'agit bel et bien d'une réalité, de quelque chose d'avéré qui s'est opéré dans notre vie le jour de notre conversion. Et il nous faut se saisir de cette vérité, de cette réalité, pour agir ensuite en conséquence de ce que nous sommes devenus en Christ. Et ce n'est pas naturel de s'approprier cette nouvelle identité en Christ, c'est tout un cheminement où nous allons apprendre à ne plus dépendre de nous-mêmes pour apprendre à dépendre davantage de Dieu pour notre vie chrétienne. Ce que Dieu a opéré sur la croix, c'est à la fois pour que nous soyons sauvés de nos péchés, sur le plan juridique, sur le plan de notre statut juridique, nous sommes justifiés, déclarés justes, mais c'est aussi pour qu'on soit transformés de plus en plus à la ressemblance de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Parce que nous avons été arrachés à la mort en Adam et conduits à la vie dans le Christ. Et c'est Christ maintenant qui vit en nous. Et il tient à manifester sa vie à travers nous, comme nous le lisons dans ce texte de Galates 2, verset 20. « Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Approprions-nous pour expérimenter toujours davantage notre nouvelle identité en Christ. Parce que, au fond, qu'est-ce que ça change d'être en Christ? Qu'est-ce que ça change, cette nouvelle identité que nous avons en lui? Eh bien, en fait, ça change tout. Avant, nous étions unis à Adam. Nous utilisions les êtres, les choses, les circonstances de la vie, notre passé, etc., etc., pour trouver et définir notre identité. Mais maintenant que nous sommes unis à Christ, maintenant que nous avons placé notre foi en lui, eh bien notre vie s'articule autour de celui qui a déjà répondu à, à tous ces besoins qu'on a exprimés la semaine dernière, dans tous ces domaines de l'amour, de l'importance, de la compétence. Et mon passé, mon vécu, j'en fais quoi ? Premièrement, en Christ, tu es aimé. Tu es aimé par le Fils de Dieu, comme nous le lisons dans toujours ce texte de Galates 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, dit Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Jésus m'a aimé, dit Paul. Le fait que Jésus ait porté à la croix nos péchés à notre place, on parle de substitution, il a pris notre place littéralement, cela atteste que la crucifixion n'est pas une sorte de transaction impersonnelle. Non, elle est une expression personnelle de l'amour du Christ pour chacun d'entre nous. Paul dit, le Fils de Dieu m'a aimé. Moi, Paul. Et si tu doutes encore ce matin de cela, je relis ce texte que j'avais lu déjà la semaine passée, dans Éphésiens 1. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon les desseins bienveillants de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Quand tu te demandes si tu es aimé, eh bien, sache que si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, tu peux avec assurance dire « En Christ, je suis aimé ». Et ça, ça change tout. En Christ, je suis aimé, nous sommes aimés, chacun, personnellement, d'un amour inconditionnel. Qu'est-ce que ça change encore ? Eh bien, deuxièmement, en Christ, tu es important. Tu es important pour Dieu parce que Dieu a donné sa vie pour toi, comme nous le lisons là encore dans Galates, chapitre 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Jésus a donné sa vie pour toi personnellement. Il te connaît par ton nom, il sait tout de toi. Il sait ce par quoi tu es passé, tes chemins de traverse, tes échecs, tes luttes, tes joies, mais aussi tes peines. J'aimerais lire un autre texte de l'apôtre Paul dans cette lettre aux Corinthiens, chapitre 6, la première lettre au chapitre 6. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été déclaré juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est le « mais » ici de la foi en Christ. C'est le « mais » qui change tout. Répété trois fois ici. Ce n'est pas moi qui l'ai mis trois fois. Hein. C'est dans le texte original, le « mais » là. Parce que nous avons placé notre foi en Christ, alors nous avons été lavés de nos péchés. Nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés en vertu de ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix et aussi parce que l'Esprit-Saint est venu appliquer cette réalité dans notre vie, dans ta vie. Et c'est comme cela que Dieu te voit, non pas dans ce qui est écrit dans les versets 9 et 10. C'est peut-être ce que tu étais avant. Peut-être. Peut-être autre chose. la liste n'est probablement pas exhaustive. Mais si tu as placé ta foi dans le Christ, Dieu te voit dans ce qui est écrit dans le verset 11. Peut-être que tu es en lutte avec la maîtrise de soi-même, la colère, le mensonge, les pensées impures, la luxure, ou que sais-je encore. Et tu penses que parce que tu luttes avec cela, tu le resteras toujours. Tu en fais même ton identité. Mais j'ai envie de te dire non, parce que si tu es en Christ, si tu as placé ta vie en Christ, alors tu es mort à ton manque de maîtrise de soi. Tu es mort à ta colère. Tu es mort à tes mensonges. Tu es mort à tes mauvaises pensées. Tu es mort à la luxure, etc. Et quand tu te demandes si tu es important, eh bien sache que si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, tu peux avec assurance dire que en Christ, je suis important. Parce que tu as été lavé de tes péchés, tu as été déclaré saint, et saint, c'est-à-dire apte à l'adoration, à la consécration pour le service de Dieu. Tu as été déclaré juste. Le Christ a donné sa vie pour toi, personnellement. Et ça, ça change tout. En Christ, je suis important. Qu'est-ce que ça change encore ? Troisièmement, en Christ, tu es compétent. Voici ce que dit toujours Galates 2, verset 20. « Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, dit Paul. C'est Christ qui vit en moi et ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Comme on l'a vu un peu plus tôt là, ce qui nous définit, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que nous sommes et à qui nous appartenons. Nos actions, le faire d'une manière générale, doit découler de l'être, notre identité. Et plus nous prenons conscience de qui nous sommes en Jésus, plus nos actions reflèteront Jésus. Et la vie nouvelle que nous menons, c'est la vie du Christ que l'Esprit-Saint vient produire en nous par sa puissance en réponse à l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est importante, et c'est d'où l'importance de la lire, parce que l'Esprit-Saint utilise, agit conjointement à la parole de Dieu pour nous changer, pour nous transformer, pour ressembler toujours plus à notre Sauveur et Seigneur Jésus. Je veux parler ici du fruit que l'Esprit-Saint va porter en nous, dont il est question dans cette même lettre de Paul aux Galates, au chapitre 5, verset 19. Il est question d'abord des œuvres de la chair qui sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgies et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais, on retrouve encore ce « mais » là. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Quand tu cherches à te définir en fonction de tes performances, de tes compétences ou inversement de tes échecs, quand tu te demandes si tu es compétent, eh bien, sache que si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, tu peux avec assurance dire « En Christ, je suis compétent, parce que Christ vit en moi. » Et c'est l'Esprit de Dieu qui produit ce fruit dont nous avons parlé en nous. Et ça, ça change tout. En Christ, je suis compétent. Mes bien-aimés, prenons conscience de qui nous sommes en Jésus-Christ, depuis le jour où nous avons placé notre confiance en lui, notre foi en lui. Mais peut-être que ce matin, tu ne sais pas dire si tu as placé ta confiance en Jésus. Tu hésites. Tu as des doutes. Peut-être que tu te définis par ton passé, ton vécu, tes erreurs, tes fautes. Tu te dis que tu es condamné à rester comme cela, tu as toujours été comme cela, tu ne t'en sors pas de cette spirale, mais sache qu'il est possible de venir à Jésus par la foi, de venir tel que tu es. Et alors, si tu te sens condamné par ton passé, eh bien sache que si tu places ce matin ta foi en Jésus-Christ, tu peux avec assurance dire « En Christ, je suis sauvé ». Je ne suis pas condamné par mon passé, je ne suis pas condamné par mon vécu, mais en Christ, je suis sauvé. Sauvé de mes péchés, sauvé de la condamnation qui pesait sur moi. Et tu démarres alors une vie nouvelle avec ton Sauveur et ton Seigneur Jésus-Christ. Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Apprenons à ne plus rechercher notre identité dans ces choses du monde, dans ces choses que nous avons évoquées largement la semaine dernière, mais nous avons reçu une nouvelle identité en Jésus-Christ dès lors que nous avons placé notre foi, notre confiance en lui. Il s'est livré par amour pour nous. Il vit en nous par son esprit. Notre joie, notre bonheur ne dépendent pas de toutes ces choses qui viennent du monde. Notre apparence, les biens matériels, nos réussites, nos joies, etc. Mais notre joie et notre bonheur nous viennent de l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Mes bien-aimés, en Christ nous sommes aimés. En Christ nous sommes importants. Nous avons de la valeur, nous avons du prix à ses yeux. Il a donné sa vie pour toi, pour chacun d'entre nous. En Christ nous sommes compétents parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Parce que en Christ, nous sommes sauvés. Soyons assurés, soyons convaincus de cela. Amen.